Tisse tous les pouces verts. 4. Outistou décide d'aider le docteur Maudivert. C'est en visitant l'hôpital que Tistou fit la connaissance de la petite fille malade. L'hôpital de Mirepoix, grâce à la générosité de Monsieur Père, était un très bel hôpital, très grand, très propre et pourvu de tout ce qu'il fallait pour soigner les maladies. De larges fenêtres laissaient entrer le soleil. Les murs étaient blancs et brillants. Tistou ne trouva pas que l'hôpital était laid, pas du tout. Et pourtant il sentit, comment expliquer cela ? Il sentit qu'il s'y cachait quelque chose de triste. Le docteur Maudivert, qui dirigeait l'hôpital, était un homme très savant et très bon. Cela se voyait au premier regard. Tistou trouva qu'il ressemblait un peu au jardinier moustache. À un moustache qui n'aurait pas eu de moustache et qui aurait porté de grosses lunettes d'écaille. Tistou le lui dit. Cette ressemblance vint sans doute, répondit le docteur Maudivert, de ce que Moustache et moi nous nous occupons l'un et l'autre de soigner la vie. Moustache soigne la vie des fleurs et moi je soigne la vie des gens. Mais soigner la vie des gens était beaucoup plus difficile. Tistou le comprit vite en écoutant le docteur Maudivert. Être médecin, c'est livrer sans cesse une bataille. D'un côté, il y avait la maladie, toujours prête à entrer dans le corps des gens, et de l'autre, la bonne santé, toujours prête à s'en aller. En plus, il y avait 1000 sortes de maladies et une seule bonne santé. La maladie se mettait toute espèce de masque pour qu'on ne la reconnaisse pas. Un vrai mardi gras. Il fallait la déceler, la décourager, la chasser, et en même temps attirer la bonne santé, la tenir serrée et l'empêcher de s'enfuir. « Tu as déjà été malade, Tistou ?» demanda le docteur Maudivert. « Non, jamais. Vraiment ?» En effet, le docteur se rappela qu'on ne l'avait jamais appelé pour Tistou. Madame Mère avait souvent des migraines, Monsieur Père souffrait quelquefois de l'estomac, le valet Carolus l'autre hiver avait eu la bronchite. Tistou, rien. Voilà un enfant qui, depuis sa naissance, n'avait pas connu la moindre varicelle, la moindre angine, le moindre rhume. Un cas très rare de bonne santé, un cas exceptionnel. « Je vous remercie beaucoup de me donner cette leçon, docteur. Elle m'intéresse bien, » dit Tistou. Le docteur Maudivert montra à Tistou la salle où l'on préparait les petites pilules roses contre la toux, la pommade jaune contre les boutons, les poudres blanches contre la fièvre. Il lui montra la salle où l'on pouvait regarder à travers le corps de quelqu'un comme à travers une fenêtre, pour voir où la maladie se cache. Et aussi la salle avec des miroirs au plafond où l'on guérit l'appendicite et toutes choses qui menacent la vie. Puisqu'ici l'on empêche le mal de passer. « Tout devait sembler si gai et si heureux, » se disait Tistou. « Où se cache donc cette tristesse que je sens ?» Le docteur ouvrit la porte de la chambre qu'occupait la petite fille malade. « Je te laisse, Tistou, tu viendras me trouver tout à l'heure dans mon bureau, » dit le docteur Maudivert. Tistou entra. « Bonjour, » dit-il à la petite fille malade. Elle lui parut très jolie, mais bien pâle. Ses cheveux se déroulaient noirs sur l'oreiller. Elle avait à peu près le même âge que Tistou. « Bonjour, » répondit-elle poliment sans bouger la tête. Elle regardait fixement le plafond. Tistou s'assit auprès de son lit, son chapeau blanc sur les genoux. « Le docteur Maudivert m'a dit que tes jambes ne marchaient pas. Vont-elles mieux depuis que tu es ici ?»« Non, » répondit la petite fille toujours aussi poliment. « Mais cela n'a pas d'importance. »« Pourquoi ?» demanda Tistou. « Parce que j'ai nulle part où aller. »« Moi j'ai un jardin, » dit Tistou pour dire quelque chose. « Tu as de la chance. Si j'avais un jardin, peut-être aurais-je envie de guérir pour aller m'y promener ?» Tistou regarda aussitôt ses pouces. S'il n'y a que cela pour lui faire plaisir. Il demanda encore. « Tu ne t'ennuies pas trop ?»« Pas trop. Je regarde le plafond. Je compte les petites fentes qu'il y a dedans. »« Des fleurs, ce serait mieux, » pensa Tistou. Et il se mit à appeler intérieurement. « Coquelicot, coquelicot, bouton d'or, pâquerette, jonquille. » Les graines entrèrent sans doute par la fenêtre, à moins que Tistou ne les ait apportées sous ses chaussures. « Tu n'es pas malheureuse au moins ?» « Pour savoir si on est malheureux, » répondit la petite fille, « il faut avoir été heureux. Moi, je suis née malade. » Tistou comprit que la tristesse de l'hôpital se cachait dans cette chambre, dans la tête de cette petite fille. Il en devenait tout triste lui-même. « Tu reçois des visites ?»« Beaucoup. Le matin, avant le petit déjeuner, je vois la sœur thermomètre. Et puis le docteur Maudivert vient, il est très gentil. Il me parle très doucement, il me donne un berlingot. À l'heure du déjeuner, c'est le tour de la sœur pilule. Puis avec mon goûter, je vois entrer la sœur aux piqûres qui font mal. » Puis après, un monsieur en blanc qui prétend que mes jambes vont mieux. Il les attache avec des ficelles pour les faire bouger. Tous, ils disent que je vais guérir. Mais moi, je regarde le plafond. Lui, au moins, il ne me raconte pas de mensonges. Tandis qu'elle parlait, Tistou s'était levé et s'affairait autour du lit. Pour que cette petite fille guérisse, il faut qu'elle ait envie de voir un lendemain, c'est clair, songeait-il. Une fleur, avec sa manière de se déplier, de ménager des surprises, pourrait sûrement l'aider. Une fleur qui pousse, c'est une vraie devinette qui recommence tous les matins. Un jour, elle en trouve un bouton, le jour d'après, elle défroisse une feuille verte comme une petite grenouille, et puis après, elle déroule un pétale. À attendre chaque jour la surprise, cette petite fille oubliera peut-être sa maladie. L'épouse de Tistou ne chômait pas. « Moi, je crois que tu vas guérir, » dit-il. « Toi aussi, tu le crois ?»« Oui, oui, je t'assure, au revoir. » »« Au revoir, » répondit la petite fille malade. « Tu as bien la chance d'avoir un jardin. » Le docteur Maudivert attendait Tistou derrière son grand bureau nickelé encombré de gros livres. « Alors, Tistou, » demanda-t-il, « qu'as-tu appris aujourd'hui ? Que sais-tu de la médecine ?»« J'ai appris, » répondit Tistou, « que la médecine ne peut pas grand-chose contre un cœur triste. »« J'ai appris que pour guérir, il faut avoir envie de vivre. » « Docteur, est-ce qu'il n'y a pas de pilule pour donner de l'espoir ?» Le docteur Maudivert fut étonné de trouver tant de sagesse chez un si petit garçon. « Tu as appris tout seul, » dit-il, « la première chose que doit savoir un médecin. »« Et la seconde, docteur, c'est que pour bien soigner les hommes, il faut les aimer beaucoup. » Il donna toute une poignée de berlingots à Tistou et mit une bonne note sur son carnet. Mais le docteur Maudivert fut encore bien plus étonné le lendemain lorsqu'il entra dans la chambre de la petite fille. Celle-ci souriait, elle s'était réveillée en plein champ. Des narcisses poussaient autour de la table de nuit. La couverture était devenue un édredon de pervenche. De la folle avoine moussait sur la carpette. Et puis la fleur à laquelle Tistou avait donné tous ses soins, une rose merveilleuse, qui ne cessait de se transformer, d'épanouir une feuille ou un bourgeon. La fleur montait à la tête du lit le long de l'oreiller. La petite fille ne regardait plus le plafond. Elle contemplait la fleur. Le soir même, ses jambes commencèrent à remuer. La vie lui plaisait. Où le nom de Mirepoix s'allonge. Vous pensez peut-être que les grandes personnes commençaient à se douter de quelque chose et qu'elles faisaient ce raisonnement simple. C'est toujours dans les lieux où Tistou est passé la veille que les fleurs mystérieuses apparaissent. Donc, ce doit être Tistou. Surveillons-le. Mais vous pensez ainsi parce que vous savez que Tistou avait les pouces verts. Les grandes personnes, je vous l'ai déjà dit, ont des idées toutes faites et n'imaginent presque jamais qu'il puisse exister autre chose que ce qu'elles savent déjà. De temps en temps, survint un monsieur qui révèle un morceau d'inconnu. On commence toujours par lui rire au nez. Quelquefois même, on le jette en prison parce qu'il dérange l'ordre de M. Trunadis. Puis quand on s'est aperçu après qu'il est mort, qu'il avait raison, on lui élève une statue. C'est ce qu'on appelle un génie. Il y avait à Mirepoix cette année aucun génie pour expliquer l'inexplicable. Et le conseil municipal se trouvait dans le plus grand désarroi. Le conseil municipal, c'est un peu comme la femme de ménage d'une ville. À lui de veiller à la propreté des trottoirs, à lui de désigner l'endroit où peuvent jouer les enfants, celui où les mendiants doivent mendier, et de savoir où il faut ranger le soir les autobus. Pas de désordre, surtout pas de désordre. Mais le désordre s'installait à Mirepoix. Il n'était plus possible de prévoir d'un jour sur l'autre où se trouverait un square ou un jardin. Les fleurs envahissaient tous les monuments publics. Si ce conseil municipal s'inclinait devant de telles fantaisies, une ville cesserait d'être une ville. « Non, non et non !» criaient les conseillers municipaux de Mirepoix réunis en séance extraordinaire. On parlait déjà de faire arracher toutes les fleurs. Monsieur Père intervient. Monsieur Père était très écouté au conseil. Il se montra une nouvelle fois un homme aux décisions rapides et énergiques. « Messieurs, dit-il, vous avez tort de vous fâcher. D'ailleurs, il est toujours dangereux de se fâcher contre ce que l'on ne connaît pas. Personne de nous ne connaît la raison de ces brusques floraisons. Arrachez les fleurs. Vous ignorez demain où elles repousseront. » D'autre part, il faut reconnaître que ces floraisons nous sont plus utiles qu'elles nous gênent. Aucun prisonnier ne s'échappe plus. Le quartier des taudis est devenu prospère. Tous les enfants de l'hôpital guérissent. Pourquoi s'irriter ? Mettons les fleurs dans notre jeu et faisons en sorte d'aller au-delà des événements au lieu de les rester à leur remorque. « Oui, oui et oui !» s'écrièrent les conseillers. « Mais comment nous y prendre ?» Monsieur Père poursuivit son discours. « Je vous propose une solution hardie. Il faut modifier le nom de notre ville et l'appeler désormais Mirepoix-les-Fleurs. Avec un nom pareil, qui pourrait s'étonner de ce que les fleurs y poussent partout ? Et si demain le clocher de l'église se transforme en bouquet de lilas, nous aurons l'air d'avoir prévu depuis longtemps cet embellissement dans notre plan de grands travaux. « Hurrah ! Hurrah ! Hurrah ! » hurlèrent les conseillers en saluant Monsieur Père d'applaudissements unanimes. Ainsi le lendemain, car il fallait faire vite, les conseillers municipaux au grand complet précédés de l'Orphéon, des orphelins, conduits par deux prêtres en costume des dimanches, d'une délégation de grands-pères qui représentait la sagesse, du docteur Maudivert qui représentait la science, d'un juge qui représentait la loi, de deux professeurs au collège qui représentaient la littérature et d'un père missionnaire en uniforme qui représentait l'armée s'organisèrent en important cortège. Ils allèrent jusqu'à la gare, là, sous les acclamations d'une foule en liesse, ils inaugurèrent la nouvelle pancarte où l'on pouvait lire en lettres d'or. Mirepoix les fleurs. Ce fut un grand jour. Où l'on cherche à distraire Tistou. Madame Mère se faisait encore plus de soucis que les conseillers municipaux, mais pour d'autres raisons. Son Tistou n'était plus le même. Le système d'éducation imaginé par Monsieur Père le rendait étrangement sérieux. Il restait silencieux des heures entières. « À quoi penses-tu donc, Tistou ?» lui demanda un jour Madame Mère. Tistou répondit. « Je pense que le monde pourrait être tellement mieux qu'il n'est. » Madame Mère prit une figure fâchée. « Ce ne sont pas des idées de ton âge, Tistou. Va donc jouer avec gymnastique. »« Gymnastique pense comme moi, » dit Tistou. Cette fois, Madame Mère se fâcha. « C'est un comble !» s'écria-t-elle. « Voilà que les enfants prennent la vie des poneys, maintenant. » Elle en parla à Monsieur Père, qui considéra que Tistou avait besoin de distraction. « Le poney, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'il voie toujours les mêmes animaux. Envoyons-le visiter le zoo. » Mais là encore, Tistou eut une mauvaise surprise. Il s'était imaginé le zoo comme un lieu féerique, où les animaux s'offraient de leur plein gré à l'admiration des visiteurs une sorte de paradis des bêtes, où le boa faisait sa culture physique autour de la jambe de la girafe, où le kangourou mettait un petit ours dans sa poche pour l'emmener en promenade. Il pensait que jaguar, buffle, rhinocéros, tapir, oiseau lyre, perroquet et sapajou s'ébattaient parmi toute espèce d'arbres et de plantes merveilleuses telles qui sont peintes sur les livres d'images. Au lieu de cela, il ne vit au zoo que des cages, où des lions pelés dormaient tristement devant des écuelles vides, où les tigres étaient enfermés avec les tigres et les singes avec les singes. Il essaya de réconforter une panthère qui tournait en rond derrière ses barreaux et qui voulut lui offrir une brioche. Un jardinier l'en empêcha. « Interdit, jeune homme, restez en arrière. Ce sont des animaux féroces !» cria le gardien fort en colère. « D'où viennent-ils » demanda Tistou. « De très loin, d'Afrique, d'Asie, je ne sais d'où. On leur a demandé leur permission avant de les amener ici ?» Le gardien haussa les épaules et s'éloignant. En grommelant qu'on se moquait de lui. Mais Tistou, lui, réfléchissait. Il se disait d'abord que le gardien n'aurait pas dû faire ce métier-là puisqu'il n'aimait pas les animaux qu'il soignait. Il pensait aussi que les animaux avaient dû transporter dans leur pelage quelques graines de leur pays et les répandre autour d'eux. Aucun gardien de zoo ne songe à empêcher un petit garçon de poser ses pouces par terre, devant chaque cage. Le gardien croit simplement que ce petit garçon-là aime se traîner dans la poussière. C'est pourquoi, quelques jours plus tard, un immense baobab s'élevait dans la cage au lion. Les singes s'élançaient de liane en liane, des nénuphars s'éployaient dans la baignoire du crocodile. L'ours avait son sapin, le kangourou sa savane, le héron et les flamants roses marchaient parmi les roseaux, et les oiseaux de toutes couleurs chantaient parmi les buissons de jasmin géant. Le zoo de Mirepoix était devenu le plus beau du monde, et des conseillers municipaux se hâtèrent d'en avertir les agences de tourisme. « Alors maintenant, tu travailles même dans la végétation tropicale. »« Trop fort, mon garçon. »« Tu es décidément très fort, » dit Moustache à Tistou la première fois qu'il le vit. « C'est tout ce que j'ai pu faire pour ces pauvres animaux féroces qui s'ennuyaient si fort loin de chez eux, » répondit.